C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC, Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'After, on est ensemble pendant deux heures comme tous les lundis. À venir dans quelques instants, l'avis tranché de Daniel Riolo qui concernera le Stade Rennais, l'avis tranché de Pierre Ducrot qui concernera le Stade de Reims-Honneur et pas au gros, une fois n'est pas coutume. Les questions de l'After également ce soir et puis les drôles de dames qui seront avec nous à partir de 23h. Vous l'avez compris, ils sont avec nous ce soir. Bonsoir Pierre Ducrot.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Daniel Riolo.
Salut les amis, salut Niki Beach.
Comment ça va les gars?
Pleine forme.
Petit détour, tiens, pour commencer par Bollaerts. Lens, oui, Jean Baumel, 26e journée de Ligue 2. Lens reçoit Niort. Salut Gibo.
Salut Nico, salut Daniel, salut Pierre.
Salut,
3
salut,
buts Gibo. 1 pour Lens. Franchement, belle soirée de Ligue 2. On est à l'heure de jeu et notamment le troisième but lensois de Chouillard, un lob de, parlons de 25 mètres. Franchement, très très belle partie.
Chouillard, moi, qui s'appelle.
Ouais, Mounir Chouillard. Franchement, 20 ans, tu verras. Enfin, on lui souhaite le meilleur, mais c'est un pur produit de la Gaillette. Chouya. Il y avait un joueur qui s'appelait Chouya, Léandre Chouya, je sais pas si tu te souviens, qui vient de passer par Amiens, qui est agent de joueur d'ailleurs.
Léandre Chouya, ça te dit rien? Léandre Chouya.
Ouais.
Léandre Chouya.
Ouais.
Pas du tout.
C'est vrai?
Non.
Ah Pierre, tu te connais toi, hein?
Oui.
Léandre Chouya.
Ouais. Ouais. Ouais, formé à Lens aussi.
Ouais, c'est vrai.
Il a fait sa carrière essentiellement à Amiens aussi. Bref, donc 3 buts 1 pour les Sangliers, 4e.
Oui, non, il a pas joué, Daniel, rassure. T'as rien loupé non plus de...
C'est-à-dire dans les figurines Panini, il était à la fin de l'album.
Je pense qu'il était même dans celle qui était divisée en 4.
Oui, oui, il était les vignettes divisées en 4.
Peut-être le 4e pour Kay. En direct, c'est magnifique. Les 22 000 supporters de Bollaerts forcément sont heureux. Et surtout, l'info, c'est que Lens reste au contact des équipes de tête pour au moins jouer les barrages. Ça sera compliqué de rattraper Brest, même impossible pour Metz. La deuxième place, pourquoi pas. Mais en tout cas, rester dans le peloton de tête, c'est hyper important pour les Sangliers. Donc 4-1, c'est quasiment foutu pour New York, même s'il reste une grosse demi-heure.
Merci Gébo. Tiens, vous donnez des résultats également à l'étranger. Reste un quart d'heure à jouer entre le RB Leipzig et Hoffenheim. Et c'est Hoffenheim qui mène 1-0 à Leipzig. Au Portugal, il y a deux matchs importants ce soir. Ça vient de se terminer entre le Maritimo et le Sporting. 0-0. C'est pas un bon résultat.
Et le Benfica qui va jouer.
Et le Benfica qui joue à 22-15 face à Chaves. Et alors match de taré en Turquie. Le Fenerbahçe était mené 3-0 sur la pelouse du Beşiktaş. C'est vrai qu'ils sont pas bien le Fener cette saison. Ils ont arraché le point du match nul. Il y a eu 3-3 au final entre ces deux équipes. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a également une opération spéciale Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Manchester United. Cette semaine, RMC vous offre des places pour le match PSG. Ce sera le mercredi 6 mars face à United. Pour remporter vos places, restez à l'écoute de RMC. Dès que vous entendrez ce signal... Vous envoyez foot au 7-32-16, ça va tomber à n'importe quel moment, ça peut tomber pendant les coupures pub, ça peut tomber pendant l'émission également. Donc dès que vous entendez ce son, vous envoyez foot au 7-32-16.
Ça compte pas là.
Comment?
Ça compte pas là.
Non, là c'était juste un essai.
Non, c'est un exemple.
Voilà.
C'est
juste qu'on l'avait déjà eu avant, tu vois, je me suis dit c'est un piège, le deuxième il va compter.
Mais non.
On va passer aux avis tranchés. Parmi les affiches du week-end, il y a eu Rennes-Marseille. Un partout, c'était hier. Les Rennais qui avant ce match avaient obtenu leur qualif historique en huitième de finale d'Europa League. Ils sont neuvième de Ligue 1. Ils sont à 6 points de la quatrième place, les Rennais. Et l'avis tranché de Daniel concerne le club breton ce soir. Jingle.
Mon cœur est absolument pur. Il ne veut de mal à personne. Sache-le.
Voilà, c'est mignon.
C'est mignon. C'est vrai.
C'est le moment pour Rennes d'en profiter, dis-tu, Daniel.
Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je te dise, Pierre, je sais pas si on aura le temps ce soir.
On prend le temps si c'est nécessaire, Daniel.
Je me suis livré toute la semaine à une petite étude psychologique.
Oula.
Sur toi. Ah. Sache-le. Par rapport à notre discussion de dimanche dernier.
J'ai rien senti, c'est déjà ça.
Je pense que j'ai tout compris, en fait, à ton propos.
Ah.
Je sais, en fait, pourquoi tu parles comme ça.
D'accord.
Mais c'est pas le sujet.
Tu veux en parler ou pas?
Non, ça peut être intéressant.
Vas-y, prends une parenthèse.
Surtout pour moi, ça peut être intéressant.
Alors, recontextualisons. Entre Daniel et Pierre au sujet du jeu de...
T'étais pas là, toi?
Ah non, mais j'écoute.
Ouais, mais il écoute.
Je sais que t'étais en vacances.
Non, j'étais pas en vacances.
Bah, je sais pas, moi, quand t'es pas là, t'es en vacances.
C'était son jour de repos, quoi.
Putain, je m'en souviens. Ouais, ça m'arrive
comme beaucoup de jours de repos.
Voilà, embrouille entre Pierre et Daniel il y a une semaine. Voilà, au sujet du jeu de la Saint-Etienne, vous étiez pas forcément d'accord sur le fond. Voilà.
Non, après, c'était pas que la Saint-Etienne, c'était plus sur le fond.
Parce que ça arrive souvent. Et en fait, j'ai compris pourquoi la plupart du temps il dit ça. Parce que je crois pas que ce soit rapport au jeu que tu aimes. En fait, j'ai compris que derrière ton propos, la plupart du temps, il y avait n'oublie pas ceux qui bossent, les joueurs qui sont un peu obscurs, ceux qui donnent pas forcément du plaisir et tout. Et en fait, je l'ai vu quand, en fait, j'ai un peu connecté quand t'as mis ton but que t'avais marqué contre Nantes.
Oui, oui, t'as commenté,
le fameux tweet.
Commenté
sur,
on peut pas dire, on peut pas dire que t'as mis beaucoup de buts dans ta vie.
Ah non. Hein,
on peut pas dire
Et puis surtout des buts comme ça.
Voilà. En plus. On peut pas dire que t'étais le gars connu pour.
Non, bien sûr que non.
Hein, voilà. Mm. En revanche, si les gens t'aimaient, c'est parce que t'étais un joueur de devoir. Et parce que tu lâchais pas et t'avais du caractère sur le terrain. Et en fait, je pense que quand tu dis ouais, il y a pas que le plaisir ou ce que moi je mets tout le temps en avant, je pense que ce que tu veux dire c'est ça, c'est que
tu as envie. Ouais, ça rejoint ça de manière.
Tu as envie qu'on n'oublie pas.
Il y a pas que des numéros 10 dans le foot, quoi.
Voilà, tu as envie qu'on n'oublie pas le mec qui est dans le travail obscur. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu étais.
Il y a peut-être. Ouais, non, mais il y a peut-être
pas,
un peu de ça.
Et
ouais.
Tu n'es pas le seul, en fait.
Il y a peut-être un peu de ça.
J'ai remarqué que beaucoup. Aussi bien entraîneurs, même consultants et tout, dans leur façon d'analyser le foot, ils reviennent souvent à ce que eux ils étaient.
T'as choué pas de canapé, je crois.
Voilà.
C'est beau. Voilà. Ouais, mais
vous
oui,
avez du mal. Et souvent vous avez du mal à vous détacher de ce que vous étiez. De... Ce qui peut être totalement compréhensible.
Bah oui, ça peut se comprendre. Hein.
Qui peut être compréhensible.
Brand, voilà. Non, mais t'as sûr. Alors, je pense que t'as sûrement, voilà, t'as sûrement raison, même si je pense que c'est pas que ça. Mais
je pense qu'il y a de ça.
Mais ça, il y a sûrement
parce
ça.
Parce que toi, tu devais. Probablement trouver du plaisir à la victoire parfois à l'arrache ou pas belle, mais parce que ton
oui
rôle,
et puis j'ai connu des
mettre en avant à ce moment-là.
Là où t'as raison, c'est que j'ai connu aussi des non même pas parce que quand tu ah. les années où j'étais dans des clubs où ça gagnait beaucoup plus si tu veux moi j'adorais voir ceux qui étaient avec moi aussi gagner des matchs de plus belle manière.
Oui, évidemment bien
et,
sûr que
et en plus
ça.
honnêtement si même si j'étais un travailleur de l'ombre comme tu dis j'étais pas non plus un joueur très laid pour jouer au ballon.
Fait qu'on n'oublie pas aussi que
oui et puis surtout j'ai connu des clubs
que le 6 à la cave il mérite était aussi d'être mis un peu en avant de temps
alors,
en temps.
Alors, peut-être ça précisément, mais aussi, et de façon plus globale, j'ai connu des clubs où à un moment donné, pour avoir des points, pour glaner des points, pour s'accrocher dans une Ligue 1, t'étais obligé à un moment donné de faire autre chose que du beau jeu, parce que t'avais pas suffisamment de qualité pour t'imposer.
Ça, c'est en revanche autre chose, et ça, ouais, je démordrais pas qu'on ait un désaccord là-dessus, parce que je pense que le meilleur moyen de gratter des points, c'est justement de ne pas faire ça.
Pas tout le temps, malheureusement.
Qui sont descendus.
Mais on a eu pas mal d'exemples, même en Europa League ou en Ligue des Champions.
Oui,
alors
non, mais
là où je te rejoins, c'est que
tu en as plus qu'on gagnait en jouant que qui ont gagné en jouant mal. Et
ouais,
tu en as plus
qui
sont descendus.
Oui, en jouant mal.
Plus qu'on souffert.
Tu vois, c'est
descendu
là...
parce qu'elle finalement elle ne tentait rien que l'inverse.
C'est là où on diffère
en fait,
aussi un peu.
C'est une fausse règle, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit.
Quand tu parles de gagner en jouant mal. Moi, je vais pas dire gagner en jouant mal. Parfois, je vais faire la différence.
En n'essayant pas de proposer.
Oui, voilà, en proposant autre chose que de jouer.
Et
voilà.
Que l'ambition,
ça peut
la
être
vie,
défendre, ça peut être. J'ai posé une question tout à l'heure à Vertu, qui est maintenant en Italie depuis deux ans.
Ouais.
Et justement, ça m'intéressait de savoir parce que lui a connu pas mal la Ligue 1 avec Nantes.
Ouais.
Il a connu un peu la Première Ligue. Là, il connaît depuis deux ans maintenant la Serie A, puis ça marche plutôt bien pour lui. Alors. Pareil, il est au milieu de terrain, c'est un travailleur, etc. Et je lui ai demandé justement s'il pouvait me dire quelque chose qui voudrait mettre en avant dans le football italien de mieux qu'en Ligue 1 ou même de moins bien, voilà. Et il m'a répondu, en Italie, on rentre pas forcément sur le terrain pour gagner en battant l'adversaire, enfin, pour s'imposer par son jeu, mais on essaye de rentrer sur le terrain pour poser le plus de problèmes possible à l'adversaire.
Et, ça, et il nous dit, aussi, on rentre pour poser des problèmes à l'adversaire.
Ouais, non, mais je sais bien, mais je pense que c'est pas, y a pas une façon unique de gagner. Voilà, c'est ça.
Ah, non, certainement pas.
Mais
il y en a des plus charmants.
Oui.
Mais il y en a des plus séduisants.
Mais pour revenir au début, oui, t'as sûrement raison, ça joue probablement.
Parenthèse refermée, les gars. On va passer à ton avis tranché, Daniel. Alors toi, tu dis, c'est donc le moment pour Rennes d'en profiter. On rappelle que Rennes est qualifié pour le 8e de finale d'Europa League, notamment. Et il y a eu ce match nul un partout ce week-end face à Marseille.
Effectivement, depuis quelques mois, on a coutume de dire, il se passe quelque chose à Rennes. Et si on insiste là-dessus, c'est parce que pendant des années, Dieu sait qu'il ne s'est rien passé ou qu'il y a eu des tentatives pour que quelque chose se passe, mais que finalement...
Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de moyens, d'amis.
Que finalement, c'est souvent tombé à l'eau. Ou pire, quand ça tombait pas à l'eau, ça tombait carrément dans des sortes de drames footballistiques quasi humiliants. Le club de la Loose, ça a beaucoup collé à la peau de ce club-là, à tel point que en matière d'autodérision, je pense que le supporter rennais est le plus fort de tous les supporters en France, avec beaucoup de lucidité d'ailleurs.
Jérôme Thomas.
Aujourd'hui, effectivement, on le dit, il se passe quelque chose, et ce quelque chose, je pense qu'il est également dû au choix des hommes. pendant, on le sait, depuis des années maintenant, c'est l'un des hommes les plus riches de France qui est à la tête de ce club. Et qui a pas fait souvent les bons choix. S'il faut trouver le symbole absolu, bah c'est dès qu'il arrive, ce qui a poursuivi ce club pendant des années, ce mercato ridicule au début des années 2000, qui a suivi Rennes pendant pas mal d'années et qui a alimenté le fait qu'on se moque pas mal de ce club. Bah,
si, derrière, si je peux me permettre, Daniel, t'as jamais eu quelqu'un qui venait du milieu du foot à Rennes avant Olivier Létang.
Voilà, tu me tends la perche. Effectivement, le choix des présidents était pour le moins curieux. On a eu des chefs d'entreprise,
marcher,
des
hein,
gens
parfois,
de tous les milieux. Ça peut marcher, t'as raison, ça peut. C'est mieux si le mec s'y connaît en business, si le mec s'y connaît en plein de domaines, et surtout en foot.
Et s'il est entouré de gens qui connaissent eux, pour le coup.
Ou si tu sais,
déléguer, c'est ce que Monaco a fait, notamment.
Ou si tu sais t'entourer, effectivement. Olivier Létang a donc été le choix le plus récent, puisqu'il est encore en place et j'espère pour lui qu'il le sera longtemps, parce que son travail, incontestablement, est à souligner, est à mettre en avant et est bon. Il est arrivé et le discours a tout de suite beaucoup changé. Alors, je pense que le fait aussi d'être au PSG avant a dû lui servir. C'est important dans un CV comme expérience. Et je pense que lui, en plus, avait des idées sur le foot. Et les mots qu'on a beaucoup entendus, c'est exigence. Exigence, être capable de jouer deux fois par semaine. Ici, on ne pleurera pas quand il faudra jouer le jeudi et le dimanche. Immédiatement, il a dit ça. Il a pris un entraîneur, Sabri Lamouchi. Et j'aimais bien le choix parce que Lamouchi est également arrivé et a calquer immédiatement le même discours en faisant référence à ses expériences en Serie A et également à l'exigence qu'il y avait là-bas. Ça s'est bien passé d'abord.
Oui, il y a eu des résultats. Hein.
Puis, oui, ils ont quand même décroché l'Europe. C'est pour ça c'est ça le kiff du moment. Ils le doivent aussi à cet homme-là. J'aimais bien ce choix. Il se trouve que derrière, ça s'est moins bien passé et que le changement, eh bien, il s'est fait finalement dans le calme. Il s'est fait sans drame. Ça a plutôt été bien géré. Alors évidemment, je pense que Lamouchi doit en nourrir des regrets, voire peut-être un peu de rancœur, comme c'est normal après tout, tous les entraîneurs qui se font virer. Mais toujours est-il que ça s'est fait tranquillement, ça a été géré. Le choix d'un entraîneur que personne ne connaissait, qui était dans l'ombre, qui arrive dans la lumière, eh bien il faut dire que ça marche. Le recrutement, moi il y avait plein de mecs sur lesquels on pouvait douter. Mbaye Niang, c'est un mec quand même, si on regarde son CV, sa carrière,
oui,
les hauts et les bas, les délires,
les
machins. Hein. Et là, bah, je vois un mec qui a l'air impliqué dans le collectif, qui fait un match jeudi à Séville, plein d'abnégation, de discipline. Je pensais même pas qu'il était capable de ça, tant le gars était plutôt soliste. Pas mal de joueurs, de bons joueurs qui se sont mis au service du collectif, des bons comme Grenier.
André.
Évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais ce qui est bien déjà, c'est la cohésion générale. Et en fait, ils sont en train de se retrouver, Rennes, dans ce qui sera probablement la plus belle saison, tout simplement, de leur histoire. Ils n'ont pas une histoire riche, hein, Rennes. Moi, je disais tout le temps que il y avait quasi tous les clubs en France avaient au moins un moment de kiff dans leur histoire pour que les mecs, les supporters au bistrot, peuvent se souvenir de ça en rigolant. Même Toulouse, le fameux Toulouse-Naples.
Tu veux dire un match qui fait kiffer,
un
quoi.
Un truc, quoi.
Oui,
voilà.
Une saison.
Et on sait que ces souvenirs-là, c'est souvent la Coupe d'Europe, qui a trop souvent été sous-estimée par nos clubs. Eh bien, eux, bah ils l'ont maintenant, leurs petits souvenirs. C'était jeudi dernier, peu y croyaient, moi pas du tout. Ils se le sont fait, leur moment de kiff, ils l'ont. Ils sont encore en course en Coupe de France. Je pense qu'ils vont tenter le truc. Hein,
Joue Orléans, on le rappelle.
Parce que ce qui serait bien aussi, c'est de soulever une coupe à un moment. Mmh. Donc ils vont le jouer en championnat. Ils vont essayer aussi d'aller au maximum. Peut-être qu'ils perdront des plumes, parce que c'est très compliqué de jouer plusieurs tableaux à la fois, surtout quand t'es pas habitué à le faire. Et ces joueurs-là sont peut-être pas habitués à le faire. Et peut-être, comme la lutte est quand même assez rude, hein, pour la quatrième place,
ouais,
peut-être qu'ils vont pas y arriver. Mais il n'empêche que rien n'effacera ce bon moment et cette belle saison. Et quand on dit, moi je me bats souvent pour cette idée, il y a pas que le résultat final, mais il y a aussi ce que t'as fait et le moment que t'as partagé avec tes supporters. Et là, on voit qu'il y a un public qui est de plus en plus fidèle et qui a envie de suivre cette équipe. Ben, je crois même pas que les supporters, s'ils se font taper par Arsenal, s'ils terminent 5 ou 6e et s'ils gagnent pas la Coupe de France, je crois pas que les supporters vont être déçus à la fin. Parce qu'il s'est passé un truc dans ce club cette année. On en parle et surtout, il faut que ce truc-là, il soit quand même suivi D'un travail
ouais, dans la continuité que ça
bah, ça a souvent été le problème de
d'un
Rennes
travail hein,
ouais.
continu ouais. parce que si c'est juste une saison bon bah ok ils s'en souviendront bah
là, ouais, non. Là ce sera même une demi-saison
non, voilà. que ce soit les bases pour voilà, s'installer
que ce
à ce niveau là
pour que Rennes devienne la meilleure équipe du deuxième chapeau si on considère que le premier c'est Paris Lyon Marseille Monaco que dans le deuxième chapeau Rennes soit là voilà ils ont un président qui connaît le foot et franchement aujourd'hui je vais pas me lancer dans l'interrogatoire là mais des présidents de clubs en Ligue 1 qui connaissent le foot, je suis pas sûr qu'on dépasse les doigts d'une main.
Ah oui, non, c'est, non, parce que souvent, c'est plus la direction sportive qui a ce rôle-là, voilà, le directeur sportif
ou. Bah non, mais c'est pour ça que le fait de déléguer est important aussi.
Le Bordeaux.
Ouais, bien sûr.
On élimine. Ouais. Marseille. Hein? Jacques-Henri Hérault.
Oui, non, la direction sportive, voilà. c'est pas lui.
Enfin, après, ouais, même à Paris, il a
Zoubi,
il est encore en face.
Mais Daniel, il est passionné. Zoubi Zarreta est censé être la caution
oui,
sport, bon, on va
oui,
dire.
Oui, voilà, bien sûr.
Comme Piqué à Angers, par exemple.
Ouais, mais voilà.
Donc au PSG, le président est passionné par le foot, mais effectivement, c'est ça, on fait pas un professionnel depuis des années.
Là, on a un pro, on a des bons choix. Et pour juste le mot final, parce qu'il faut le dire aussi, la façon dont on a géré l'affaire Ben Arfa.
Ouais.
Ben Arfa a quand même un CV assez lourd en affaires dans les clubs et souvent ça a laissé des sales traces. Là, okay. Alors, on peut trouver délirante son attitude parce que moi je la trouve d'ailleurs.
Ah bah oui,
mec, je suis fatigué, je viens pas, c'est ouf. Mais la façon.
Ah, mais c'est surtout, je viens pas une mise au vert quand t'es voilà. fatigué.
Mais souvent.
On rappelle quand même que la mise au vert, on dort quoi.
Voilà. Mais
en gros, c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
Mais la façon dont le club l'a géré, très vite, on joue le match, on s'explique derrière. C'est clair et net.
On communique vers l'extérieur.
Mais clair, en quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas venu. Dans pas mal de clubs, comme c'est un peu le joueur vedette, on aurait essayé de mettre un peu la poussière sous le tapis. On leur a dit, attends, on joue quand même Marseille, c'est un match important. Viens quand même. Non. Tu ne viens pas. C'est pas grave. Le club d'abord. Très bien. Ils l'ont reçu, ils se sont expliqués, affaire close. Il revient dès le prochain match. Il sera sur le terrain, probablement, contre Orléans. Ça a été réglé et le club a été respecté parce qu'il a été sanctionné. Impeccable.
Pierre, ton avis là-dessus? On rappelle juste un petit parenthèse. Ils ont remporté deux Coupes de France, hein. C'était dans les années 60-70, Rennes, mais oui. Ils ont quand même un petit palmarès, hein.
C'est marrant parce que dans la même proportion, moi, je vais parler de Reims, tu l'as dit, mais je vais parler aussi un peu de Montpellier, d'Angers. Allez, Nîmes à une moindre mesure parce que c'est encore un peu plus frais dans la restructuration de ces clubs-là, mais c'est un peu pareil. T'as un ancrage très fort local et t'as des clubs qui se restructurent très intelligemment et comme par hasard c'est là où t'as des résultats ou en tout cas t'as des perfs qui sont de plus en plus régulières et alors pas au même niveau que Rennes pour les clubs dont je parlerai après mais ouais c'est exactement ça on a senti depuis un an et demi deux ans quasiment maintenant que le Stade Rennais prenait le bon chemin parce qu'il y avait une tête enfin une autorité qui savait vers quoi il fallait se diriger il y avait des choix d'hommes qui ont été faits intelligemment. Il y a aussi, faut pas le Daniel en a pas parlé, mais parce que c'était pas le propos de son avis tranché, mais t'as tout un centre de formation et des structures qui sont très stables à Rennes maintenant aussi, et ça participe dans un club comme ça à une stabilité générale. J'en parlerai aussi pour les autres clubs. Donc oui, voilà, c'est un club qui prend la bonne direction. Après, on sait aussi, et ces gens-là le savent encore mieux que nous, que c'est très fragile. Cet équilibre, il est toujours très fragile et qu'il faut faire super attention, notamment à des épisodes ou des anecdotes comme il vient d'arriver avec Atem Ben Arfa, qui là a été très bien géré.
On va accueillir Sébastien, supporter du Stade Rennais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Sébastien.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir
vous
Sébastien.
Bah et toi alors? Ça va bien en ce moment du côté de Rennes?
Ah bah oui, on est content, hein, c'est sûr. Hein. on va pas faire la fine bouche et puis on a toujours dit que à Rennes il y avait pas de supporters. Ben on a bien répondu à cette requête parce qu'on était quand même plus de 3000 à Séville, donc c'est quand même super quoi.
Ah puis l'ambiance au stade de la route de
Lyon,
pardon, au Raisons Park.
Alors comment tu la sens toi cette saison du coup Sébastien? Est-ce que pour toi elle est déjà réussie? On rappelle Rennes est pour l'instant 9e. Il y a eu effectivement ce parcours en Coupe d'Europe. Il y a Orléans en Coupe de France, donc a priori c'est jouable, c'est une Ligue 2. Comment tu l'analyses toi cette saison déjà là à 10 journées de la fin?
Pour l'instant on peut l'analyser dans deux sens. Il y a eu Sabrine Lamouchi qui lui malheureusement n'est plus au Stade Rennais aujourd'hui, donc a été remplacé par Jean Stéphane qui est un peu un coup de poker entre guillemets parce que bon il a quand même pas beaucoup d'expérience par rapport à la Ligue 1. Et puis ben la deuxième partie, ben le positif, c'est de, bon, l'enchaînement des matchs, la confiance qui est revenue, les joueurs qui se sentent plus concernés aussi. Et donc pour l'instant, nous, en ce qui concerne ça, on est très content de voir comment ça se passe aujourd'hui. Bon, après, je vous ai entendu parler de Ben Arfa. Bon, c'est vrai que Ben Arfa, bon voilà, c'est un joueur qui est dans le collectif, qui est très important pour nous. Donc c'est vrai que là, ils l'ont très bien joué, ils ont calmé le jeu tout de suite. Bon voilà, bon, j'espère que ça va pas nous poser des problèmes dans les matchs à venir, parce que j'espère que tout va continuer à se passer comme aujourd'hui on voudrait que ça se passe, c'est-à-dire éviter d'avoir des problèmes avec des individus, quoi. Mais non, nous, franchement, supporters, j'en discute souvent avec des gars, et pour l'instant, on est vraiment contents, et on espère, il y a deux choses. Soit on va continuer à aller jusqu'à la fin de saison avec un effectif en confiance et pas trop de blessés, parce que ça, je pense que ça va être un peu notre problème, peut-être. On commence à avoir quand même des joueurs qui commencent à avoir des petits tiraillements. On a quand même vu encore Mekcher contre Marseille qui se tenait un peu derrière la cuisse, Traoré qui avait des petits problèmes aux ischios.
Et puis là, le calendrier va être lourd en plus, Sébastien. Là, il y a beaucoup de matchs. Alors, ça dit, tiens.
C'est l'enchaînement des matchs qui pourrait peut-être nous dire qu'en deuxième partie, enfin, en fin de saison, parce qu'il nous reste quand même plus que 10 matchs, on va dire, en championnat, qui pourrait peut-être nous porter préjudice par rapport à justement à ces petites blessures qui pourraient, disons, éviter. Parce qu'on n'a pas un effectif non plus très important pour pouvoir.
Juste une info par rapport à ça également, parce que la Ligue est quand même, enfin, prend ça aussi à cœur. Le match Nîmes-Rennes qui était prévu samedi à 20h a été reporté pour que Rennes puisse être dans les meilleures conditions pour son 8e de finale de Ligue Europa.
J'ai vu ça, mais
ce sera le 7 mars.
Même si ça plaît pas trop à Nîmes, mais, le match, mais c'est bien quand même.
Oui, non, mais reporté à quand alors?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de date. Alors voilà.
Qu'est-ce qu'on reporte demain des matchs?
Alors il y a énormément d'ailleurs de, il y a d'autres infos également.
Ah oui, donc ils vont jouer mercredi soir?
Oui.
Non, c'était pas infaisable, mais c'est pour leur
ils jouent mercredi contre Orléans.
Oui, contre Orléans, pardon.
Donc en fait, ils ont joué dimanche, ils devaient rejouer mercredi, ils devaient rejouer samedi et ensuite jeudi.
Oui.
Ouais, ça fait un match tous les 3-4 jours.
Ouais, puisqu'on parle des matchs reportés, j'en profite pour vous dire, Dijon PSG de la 18e journée, il va se jouer le 12 mars, et le Nantes PSG, il va être reporté, il était prévenu le week-end du 9-10 mars. C'est la préfecture de Loire-Atlantique qui a décidé de repousser le match en raison des manifestations des Gilets jaunes.
Non, mais j'en reviens à Rennes, ça veut dire qu'en gros, ils vont avoir une semaine pleine pour préparer le match contre Arsenal.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est le but, ouais, c'est le but de reporter le match. Ah, ce qui est pas mal après.
Non, c'est une bonne idée si.
Tu dois pouvoir enchaîner normalement,
parce que
mais bon.
Éviter les blessures, mais non. Ouais. Après, quand t'es dans une dynamique où t'es taquet tous les trois jours, c'est.
Et puis quand en plus t'as les résultats.
Ouais. Des fois, c'est presque pire de couper pendant la semaine. T'arrives et parce que quand tu joues comme ça tous les trois jours, tu t'entraînes plus beaucoup. T'es à chaque fois en phase un peu de récup.
Tu t'entraînes plus du tout.
Tu fais les matchs, tu vas à l'entraînement,
On n'est pas en train de dire que les joueurs ne vont plus à l'entretien, mais à l'entraînement, mais c'est pas la même chose, quoi.
Lapsus. Merci à Sébastien, supporter de Rennes, qui nous a appelé au 32-16. Petit détour par Bollaert. Jean Baumel, Lens-Niort, c'est de la Ligue 2. Ils en sont où, les Lensois, là? Ils déroulent.
4 buts à 1. Il reste 7 minutes. Il y avait un coup franc encore là pour les Lensois. C'est peut-être pas terminé avec Gomis qui va peut-être centrer. Mais en tout cas, vraiment un très très bon match de Ligue 2. C'est faut le souligner parce qu'il n'y en a pas des super super souvent. Voilà, but qui va être refusé pour hors-jeu de Gomis. Et donc, ça fera toujours 4 buts à 1. Bon, Lens qui va s'envoler tranquillement pour la victoire. C'est important, je vous le disais tout à l'heure, pour les places de barrage pour une éventuelle montée en Ligue 1. 7 minutes à jouer, 4 buts 1 pour Lens face à Niort.
Dans quelques instants, l'avis tranché de Pierre Ducrot qui concerne le stade de Reims, qui est un peu le symbole de ces petits qui réussissent pas mal. Bah ouais, on dit souvent dans l'after, vous parlez toujours des mêmes. Bah non, on en parlera un petit peu dans les questions de l'after dans quelques instants, des gros entre guillemets. Mais dans quelques instants, toi Pierre, tu vas nous parler du stade de Reims. À tout de suite avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.
RMC Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot, on était dans la vie tranchée de Daniel qui concernait le stade Rennais. Place maintenant à la vie tranchée de Pierre Ducrot. Jingle Ducrot.
Tout le monde est un peu plus vulgaire. Je crois que c'est à cause de Pierre Ducrot, c'est le pire, que j'aime beaucoup en tant que commentateur. Et au lieu de dire qu'on s'en mord les machins, on peut se dire qu'on s'en mord les doigts.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les...
Alors, vrai, le carton vrai. De cette 26e journée de Ligue 1.
J'adore cette phrase. Hein. Ouais. C'est le coach de Lyon.
Ouais, non, mais j'ai pas ça choisi, j'ai pas choisi ça. Voilà, ouais,
ça tient encore.
Le carton de la 26e journée de Ligue 1 et l'œuvre de Reims. Victoire 4-2 à Montpellier ce week-end. Alors, les Rémois qui sont au cœur de ton avis tranché. Toi, tu dis Reims est un exemple, Pierre, explique-lui.
Oui, Reims et d'autres clubs. Mais effectivement, Reims, on est presque le symbole du moment. Voilà, ce qui veut pas dire que Reims sera devant Montpellier ou devant d'autres que je vais citer à la fin. Mais en tout cas, ils sont dans une très très bonne période et c'est pour moi, tous sauf un hasard. C'est là le cœur de mon avis tranché. C'est que c'est pas des petits clubs qui d'un seul coup réussissent une série comme ça et puis arrivent à gratter 2-3 places et puis vont redisparaître après. Alors à leur niveau et leur niveau très souvent dans notre Ligue 1 ou ailleurs d'ailleurs c'est pareil ça va avec les budgets parce que on a beau dire à un moment donné l'argent doit quand même un petit peu aider à te situer dans un championnat.
C'est le bonheur, c'est ça, hein?
Bah pas pour tout le monde, mais ça te situe un petit peu tu vois, ouais, voilà. Alors je vais pas faire le constat des équipes qui sont à leur place en haut, voilà, le PSG, Lille, Lyon qui est pas loin de ce qui doit être sa place, Saint-Etienne qui est à sa place aussi, si tu compares avec son budget.
Ah ben non, ils sont pas à leur place, hein. Ils ont une place.
Non, mais quasiment, et puis ils vont peut-être y finir.
Au niveau des points, ils sont pas à leur place non plus.
Oui, au niveau des points, mais bon, t'as compris mon esprit. Ils sont là-haut quand même. Ça peut s'améliorer, on est d'accord, Daniel. Je vais pas vous faire le constat non plus pour ceux qui sont en bas, malheureusement, et qui correspondent à peu près à leur budget, comme Dijon, comme Caen, Guingamp, l'air de rien, qui a un budget, un des plus petits budgets de Ligue 1. J'avais envie de parler de ces petits clubs qui prennent la place des clubs qui devraient être à la leur, c'est comme Bordeaux, comme Nantes, comme peut-être comme Toulouse, Nice. Même Nice aussi, bien que Nice à mon avis va finir pas loin de là où ils doivent être. Et ces clubs-là, effectivement, c'est Reims, c'est Strasbourg, c'est Montpellier, parce que Montpellier, on a toujours tendance à dire qu'ils doivent être là, mais Montpellier, avec le budget qu'ils ont, ils font toujours relativement de belles choses quand même. Le SCO, dans sa proportion à lui, mais qui est depuis 4 ans une équipe qui se sauve très rapidement en général en Ligue 1 et qui finit tout le temps entre la 9e et 13e place, alors que c'est un des plus petits budgets l'avant-dernier ou quelque chose comme ça de Ligue 1. Tous ces clubs-là ont un point commun, je l'ai dit, c'est pas le hasard, c'est qu'ils se sont ou structurés ou restructurés de manière très intelligente. Et c'est là que ça rejoint un petit peu la vie tranchée de Daniel, finalement. C'est que à la tête de ces clubs-là, il y a des hommes qui ont restructuré l'ensemble du club, en commençant par les structures physique du club, c'est-à-dire qu'il y a des centres d'entraînement qui sont beaucoup plus fonctionnels, qui sont reconstruits avec des centres d'entraînement pour le centre de formation également. Tout ça participe à un état d'esprit général. Des stades, même si c'est peut-être pas le...
À Reims, c'est le cas. Ils ont fait
un joli listing. Le SCO rénove le sien. Montpellier, ils l'ont depuis longtemps. Strasbourg, la Méno aurait peut-être besoin d'être rénové, mais t'as une...
Stade, pourri, hein.
Alors c'est pourri, sauf que t'as une ferveur aussi qui t'aide quand même à... Voilà.
Non, ça participe. À Strasbourg. Mais sur Montpellier. Ah non, je pensais que tu parlais de Montpellier, pardon.
Ah non, je parlais de Strasbourg.
Montpellier, d'ailleurs, c'est un projet, hein, de...
Oui.
Et puis le stade, je mets ça un petit peu à part, parce que c'est presque plus sur le plan économique que c'est important pour un club que sur le plan de la structuration sportive. Les centres de formation, pour les visiter dans ces clubs-là et pour travailler avec eux, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est que des clubs où les centres de formation ont été créés ou ont été rénovés ou recréés ou restructurés comme vous voulez, avec parfois même des très bonnes idées. Il y a l'auditeur hier qui nous parlait un petit peu de cette équipe élite qui est entre la réserve et les pros. C'est un groupe qui a été créé du côté du stade de Reims, avec quasiment les mêmes conditions d'entraînement que les pros, avec tout ce qui va avec, en qualité de vestiaire, de balnéothérapie, d'entourage médical, etc., de staff, avec un message qui est différent de celui des pros, bien entendu. On leur fait bien attention de leur dire qu'ils sont pas encore arrivés, les jeunes, mais on les met déjà dans des conditions, on les prépare pour pas que la transition soit trop brutale. Donc il y a toutes ces structures là qui sont mises en place, et pour ces clubs là c'est tous une vérité. Il y a des hommes qui sont à la tête de ces projets, et là aussi ça rejoint un peu la vie tranchée pour Rennes de Daniel. Là c'est Olivier Létang qui fait les bons choix, mais t'as d'autres personnes dans ces clubs-là qui les font. Alors ça peut être des coachs, ça peut être des directeurs sportifs qui sont bien à leur place et qui font bien leur travail, et tout ça apporte une stabilité à ces clubs, et finalement on les retrouve. Alors Reims, c'est assez nouveau puisqu'ils viennent de remonter forcément, mais
je suis presque prêt à parier que Reims alors sera peut-être pas sixième tout pendant 4 ans, je suis pas en train de vous dire ça, mais je peux prendre le pari que Reims va s'installer durablement dans ces places-là, 8 12e, pour se pérenniser en Ligue 1, pour asseoir le club. Après on verra les ambitions du club, est-ce que si ça peut refranchir une marche, mais dans le fait d'installer un club durablement dans ce ventre mou, ce qu'on appelle le ventre mou de la Ligue 1, même si ça peut paraître pour certains pas ambitieux, dans une première étape ça l'est et c'est nécessaire pour un club pour s'asseoir. Et ces clubs-là, il faut leur tirer ce coup de chapeau, parce que du coup ils font pas l'ascenseur. Ils sont là et ils sont bien stables. Et il y en a qui arrivent pas à le faire.
Finalement, la différence avec les gros clubs, c'est quoi? C'est la stabilité, notamment chez les coachs.
C'est la stabilité. Et finalement, ces clubs qui n'ont pas le droit à l'erreur financièrement. C'est-à-dire que ces clubs-là n'ont pas le droit de perdre de l'argent, de se tromper énormément dans les joueurs qu'ils font venir, etc. D'ailleurs, c'est un autre point commun dans ces clubs-là. C'est qu'ils font beaucoup de très bonnes affaires parce qu'ils se trompent très peu sur les recrues qu'ils font, des recrues qui coûtent pas cher, qui sont recrutées souvent en Ligue 2, en National, à l'étranger. T'as des services de scouting qui sont mis en place dans ces clubs-là, qui sont de plus en plus performants, et ce qui leur permet ensuite à la revente de faire des affaires et de rapporter quelques millions qui leur sont bien utiles ensuite. Et peut-être que cette pression de ne pas avoir le droit à l'erreur les fait travailler un peu mieux que certains qui ont peut-être un petit peu les coudées un peu plus franches au niveau financier et qui prennent ou des risques ou qui travaillent peut-être un petit peu moins précisément que ces clubs-là.
C'est vrai que finalement on a l'impression que peut-être que les plus gros sont moins bons, mais c'est vrai que les petits travaillent pas mal aussi, Daniel.
Non, je suis assez d'accord avec, en tout cas pour le cas présent. Après, faut toujours voir si c'est juste là un bon moment pour ce club-là.
Reims, peut-être. On n'a pas de recul encore.
Pas trop.
Mais je te dis, je serais pas étonné que ça s'installe aussi.
Je pense qu'il faut attendre, il faut un peu plus de recul. Rennes, c'est différent parce que c'est une histoire récente qu'on connaît. On voit l'évolution, on sait ce qui a pas été bien fait, on peut comparer avec ce qui se fait là. Reims, j'ai pas assez d'éléments sur l'historique.
Reims, tu peux comparer avec la période qu'ils ont où ils montent en Ligue 1 et où ils redescendent.
Et où
c'était pas du tout géré de la même manière au niveau sportif.
Tiens, ça vient de se terminer à Bollard, les gars, entre Lens et Niort, 26e journée de Ligue 2, Jean Baumel.
4-1, grosse performance des Lensois avec début tout d'abord sur penalty de Gomis, puis contre son camp, c'est Lapi pour Niort. Ensuite un but de Kay et de Chouillard, un but de Jacob pour les Niortais. Donc superbe opération pour les Lensois qui passent devant le PFC et qui reviennent à la 4e place à exactement 4 points de Lorient. Donc voilà, la course à la montée est toujours d'actualité pour les Lensois. Bonsoir.
Merci, bonne nuit à toi, Jibo, à très vite.
Bonsoir à tous.
Jibo, tiens, accueille Jean-Louis, supporter de Reims, voir ce qu'il en pense. Salut Jean-Louis.
Oui, bonjour. Bien, écoutez, ce que bonsoir, j'en pense, moi je trouve que c'est super bien géré. En fait, on a au départ un club qui monte de Ligue 2 et qui se dit que la première des choses quand on est en Ligue 1, c'est de perdre le moins de matchs possible. Donc une solide défense. Et puis on arrive au mercato d'hiver avec le constat que ne pas prendre de but c'est bien, et d'être la deuxième ou troisième défense d'un championnat c'est pas mal, mais c'est quand même un peu juste. Et en fait, un recrutement, notamment, il y en a un qui est absolument génial, c'est Zeneli qui est au milieu, le Kosovar international là, qui a été recruté, qui se met en numéro 10 et qui est en train de faire claquer des buts par les attaquants. Un mec comme Oudin qui sort de Ligue 2, il a 4 buts en 3 matchs. Simplement parce qu'ils ont des passes et Chavaria qui revient de blessure, il va se régaler avec un mec comme ça qui distille les ballons.
C'est quand même mieux quand il y a la petite mutation. D'abord on est solide et après on met des buts.
Mais c'est surtout que les bons joueurs coûtent pas forcément très cher. C'est surtout ça ce que démontre Reims aussi.
Oui, et alors non seulement c'est des gens qui sont pas chers, mais moi j'étais même dans l'idée de me dire que j'ai l'impression que président Caillou il fait son mercato à l'envers lui. C'est un filou, il fait son mercato l'hiver tranquille, il intègre des gars de qualité sans qu'il y ait trop de pression sur le marché des transferts, il les fait venir, il les intègre dans son équipe et il prépare tranquillement pour quand il va rentrer après les vacances, il va avoir son groupe déjà intégré, déjà soudé pour démarrer la saison prochaine. Je pense que le classement pour l'instant il est anecdotique. Je suis même pas certain qu'on ait tous envie d'aller en Coupe d'Europe derrière. Moi j'étais à Reims, j'y habite plus maintenant, mais j'y habitais de nombreuses années et j'étais abonné au stade quand j'y étais. Je pense que déjà rester, comme on l'évoquait, dans les 12 premiers tranquilles, c'est-à-dire pas être dans la trouille de faire le maintien, mais d'en dire qu'il y aura peut-être une saison, un coup à jouer pour faire une Coupe d'Europe, et puis voilà. Mais je trouve que c'est, pour l'instant, ça fait une très très belle équipe et je pense qu'elle va finir une drôle de saison. Vous allez voir, parce que la présence de ce gars en 10 derrière les attaquants, il bonifie, il y a un très solide secteur défensif, un bon travail en milieu défensif derrière avec il y a vraiment des gens de qualité, et lui devant c'était exactement ce qui manquait pour faire la liaison avec et là Chavaria qui rentre, je pense que ça va être vraiment ouais. On va avoir de belles choses. Je ouais. pense.
Et c'est vrai qu'on parlait de la stabilité. On parlait de la stabilité chez les coachs. Et tu parlais tout à l'heure de Moulin. Non, mais de Moulin à Angers.
Aussi.
Je crois qu'il est au club depuis 2011 ou 2012 aussi, hein, Guillaume.
Ouais, ouais, bien sûr. Il y a une stabilité. Voilà. Et ce dont parle, pardon, j'ai oublié Jean-Louis à l'instant. Il voit la finalité sur le terrain, mais je vais pas lui enlever du mérite, mais parce qu'il met de l'argent, Monsieur Caillot, depuis des années dans le club. Mais c'est aussi parce que t'as un directeur sportif et une cellule de recrutement qui ont été chercher ce genre de joueur. Zenelli, là, il est pas arrivé par hasard. Hein. C'est vraiment parce que ces petits clubs aux moyens plus limités que d'autres investissent réellement dans cette cellule de recrutement et dans cette direction sportive. Ils mettent les moyens à cet endroit-là. C'est pas juste le hasard. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais dire.
On remercie Jean-Louis de nous avoir appelé au 32-16. Ne raccroche pas, Jean-Louis. On t'offre deux places de cinéma pour aller voir Jusqu'ici, tout va bien. La nouvelle comédie par le réalisateur de La Vache avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. Dans quelques instants, les questions de l'after. Il y aura du Paris Saint-Germain, il y aura du Bordeaux, il y aura du Lyon. On vous attend au 32-16 pour y revenir dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, je vous rappelle qu'il y a des places à gagner pour aller voir le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ce sera le 6 mars prochain. Et un petit son, vous entendrez au cours de l'after, ce petit son-là. Et ben quand vous entendrez ça, vous enverrez foot au 7-32-16 et vous remporterez des places pour aller voir le 8e de finale retour de Champions League entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Et puis si vous n'avez pas la chance de remporter les places, vous pourrez le voir sur RMC Sport ce match, bien entendu. On passe aux questions de l'after et au PSG, justement, qui donc va avoir ce 8e de finale retour en Ligue des Champions. Ce sera le 6 mars. Alors entre-temps, les Parisiens vont affronter Dijon et Caen. Alors Dijon en Coupe de France, ce sera demain, et Caen, ce sera en Ligue 1. Tourelle, petite info PSG, qui a annoncé aujourd'hui que Marquinhos allait souffler face à Dijon. Il est resté un peu mystérieux sur Mbappé, il a pas voulu donner trop d'informations, il sait pas trop s'il va jouer. Meunier lui est de retour, Cavani reprend l'entraînement cette semaine, Tourelle espère qu'il sera prêt face à Caen, et puis Tourelle qui a également donné des nouvelles de Neymar qui se fait soigner au Brésil en ce moment, et Tourelle, bah, il veut que Neymar soit là pour le match face à Manchester United, même s'il n'est pas opérationnel, écoutez-le.
Et c'est bien pour lui, et pour nous c'est important qu'il rentre contre avant Manchester, et il est ici pour nous aider. C'est une phase importante maintenant pour revenir avec beaucoup de force. J'espère que après Manchester, il peut commencer de faire entraînement.
Alors, est-ce que c'est important?
Mais c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, de toute façon, comme quoi il serait de retour pour ce match-là. Donc il y a rien de nouveau, et effectivement, je pense que
c'est pas une nouveauté, mais est-ce que c'est important qu'il soit là, Neymar?
Oui. Oui, je pense. Absolument.
Tu l'as dit, le monsieur.
Ouais, absolument. Tourelle le dit. Tourelle le dit absolument. D'abord, c'est le mieux placé pour savoir ce dont le groupe a besoin. Nous, après, on peut bien commenter. Mais déjà, si eux, ils sentent le besoin d'être tout ensemble pour un événement qui est quand même très important, parce que c'est bien beau, encore une fois, d'avoir gagné le match aller, mais le travail, il faut le finir. Clairement,
ouais, c'est dommage de pas le finir.
On n'est plus là. Clairement, le PSG maintenant là doit en être c'est du 90-10 voire 95-5. Ok, très bien. Mais à l'image de Rennes au Bétis, où on est moins dans la Coupe d'Europe d'il y a 20-30 ans où tu gagnais déjà quand tu gagnais 2-0 à domicile.
Ouais, t'avais fait.
Souvent, c'était quand même bien bouclé. Alors 2-0 à l'extérieur, encore mieux et tout. Je trouve que parfois il y a encore des choses. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus ouvert. Je te dis pas que je suis en train de croire que la catastrophe peut se produire. Non, je répète. Logiquement, voilà, à un moment
on leur parle avec Julien Laurence, mais en plus il y a un nombre de blessés à United. Là, ils ont eu 3 blessés en une mi-temps face à Liverpool ce week-end.
Exactement. Bon. L'année dernière, tu sais, Real, ils ont mis 3-0 à Turin et le retour. Bon.
Ça c'est sur l'impact que peut avoir Neymar dans le vestiaire avant un match comme ça.
Donc il faut que tout le monde soit là et tout le monde soit mobilisé.
Il y a un autre critère aussi qui me semble important, c'est que pour un club comme le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, si jamais Neymar n'était pas là et était resté au Brésil, forcément ça serait commenté partout et
ce serait juste pas bien.
Voilà, c'est, et donc match, là, tu t'évites des problèmes finalement.
C'est le match le plus important depuis le début de la saison, quasi.
Et il faut qu'il soit là
pour que en quart de Ligue des Champions, tout le monde doit être là et ta vedette doit être là, je sais pas s'il doit être dans le vestiaire ou avant machin.
Il sera un peu dans le vestiaire avant le match et puis il sera en tribune tranquillement après.
Ouais.
Alors, on va passer à notre question de l'after. On va parler de Bordeaux hier. On a à peine eu le temps de l'évoquer, le cas du Girondin de Bordeaux. Bordeaux qui a perdu 1-0 à Nantes ce week-end. Bordeaux qui est 13e de Ligue 1. Tentative d'explication de ce mauvais moment par Éric Bédouet à l'issue de cette nouvelle défaite.
On est un petit peu dans le, des fois dans la post-formation. On est un petit peu dans ce genre de choses-là. Il faut, mais c'est pas une critique vis-à-vis de ça, hein. Pas du tout, hein. Il faut être plus méchant, mais dans le bon sens du terme. Il faut être plus agressif. Il faut être plus concentré sur les phases à arrêter comme ça. On peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça. Il faut être beaucoup plus concentré, agressif et toutes les qualités qu'il faut. Il faut de la chance aussi. Il faut de la chance aussi, un petit peu de chance. Il faut la provoquer, la chance. Pour l'instant, c'est difficile.
Voilà, ouais, c'est difficile, voilà. Ça se voit. Hein.
Non mais Bordeaux, c'est un gag. Hein,
mais pourquoi personne n'en parle alors? Parce que Bordeaux va mal.
Parce que moi, je suis. J'en ai parlé hier soir.
Ouais, on a évoqué.
Non mais moi, je suis persuadé que tout le monde attend la transition de cet été. Enfin, en tout cas, qu'à la tête du club.
Mais là, ça devient dangereux comme jeu, là, Pierre, là, quand même.
Mais c'est quoi la transition de cet été? Ils sont là, les nouveaux tauliers, non?
Ouais, ils sont là, mais ils veulent pas. Ouais, mais je pense qu'ils veulent pas tout changer maintenant et qu'ils le feront cet été.
Bon. Ah, donc ils vont changer d'entraîneur parce que bon, Ricardo est fatigué et puis la situation.
Je sais pas ce qu'ils vont changer.
Mais imposé à Bordeaux, hein, parce que le fait que Ricardo ne puisse pas faire, on est dans le grotesque total là pour le coup. Bordeaux n'y est pour rien. Mais Ricardo est fatigué. Bédoué, le prof de PS là, bon, il a rien à faire là. C'est pas normal.
Éric Bédoué, moi je l'ai eu il y a.
Ouais, mais il était pas principal.
Il y a 20 ans, il était déjà à Laval.
Mais stop, quoi.
Alors, c'est peut-être pas l'entraîneur de Ligue 1, mais ça a toujours été un très bon adjoint. Il connaît le football.
Oui, mais aujourd'hui, c'est lui la tête de gondole. Oui, lui qui doit.
Le souci, c'est que c'est lui qui est. Voilà, le problème, c'est que
tu vois la différence. Tu vois la différence entre le ton dont il dit les choses et le contenu de ses phrases. Il faut qu'on fasse peur. Il dit ça, il faut qu'on fasse peur.
Non, mais il n'y croit pas lui-même. Parce que.
L'actionnaire, là.
Si, peut-être qu'il y croit, mais il n'arrive pas à
lui. Non, moi, je pense qu'il n'y croit pas lui-même.
Dagrossa, qui est plus là. La longue épée, alors lui, on sait pas d'où il débarque. Il découvre le ballon. Enfin, ce club, la Matmut, c'est vide. Il faudra quand même comprendre que la Matmut, c'est vide. Tout le monde s'en cague à Bordeaux. Il y a juste les vrais supporters qui restent là. Bordeaux, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Quand le club marche, les gens viennent. C'est un peu partout pareil. Ok, mais là-bas, il y a une vraie. D'ailleurs, ce sont des gens à l'intérieur du club qui me l'ont dit ça, s'il fallait renforcer le constat que je fais depuis des années, on vient s'il se passe quelque chose, tel événement. Mais sinon, le Bordelais, au fond de lui, il est pas vraiment très foot. Il est pas vraiment foot.
Pourtant, il y a eu une sacrée histoire, quoi.
Une histoire fabuleuse, il y a eu des joueurs fantastiques, c'est un très beau club.
C'est un des plus beaux clubs en France.
Exactement.
Quoi, en termes d'histoire.
N'empêche que ça a toujours été comme ça. Même grandes heures, il fallait que ce soit un gros match, que l'équipe soit un ou deux pour vraiment que ça fasse le plein. Sinon, c'était pas. Et là, c'est vraiment, mais c'est vide de chez vide, c'est un échec.
Pourtant,
le stade, c'est un échec, hein. Là où il est, comment on y va.
Oui,
vide.
Au niveau organisationnel, oui, c'est un vrai échec.
Mais même visuellement.
Mais en Europa League, pourtant, je me rappelle même cette année de belles ambiances, non, parce qu'effectivement tous les côtés étaient vides, mais derrière les bus
les ultramarines notamment,
il y avait un vrai cœur de supporters,
eux sont là, je parle pas d'eux, mais un club ne peut pas vivre uniquement
malheureusement. Surtout quand t'as un stade comme ça derrière.
Tiens, voyons ce qu'en pense Jérémy, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Salut Jérémy.
Salut à tous.
Alors, c'est vrai, Jérémy, Bordeaux est en train de couler en silence finalement, parce que alors quand je dis personne n'en parle, c'est vrai que nous on l'a évoqué ici notamment hier, on en a glissé un mot également, mais Bordeaux glisse et puis finalement ça se fait dans l'anonymat, on dirait. Il y a pas de mouvement, il y a rien autour du club, on dirait.
C'est pas qu'il y a rien autour du club, c'est-à-dire que c'est pas intéressant pour les médias. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas de joueur qui fait rêver. L'année dernière on avait Malcolm qui était l'arbre qui cachait la forêt, on va dire. Et cette année il y a rien tout simplement. Vous parliez que le Matmut est vide, mais pourquoi le Matmut est vide? Parce qu'il n'y a rien, tout simplement.
Il n'y a rien à voir.
Alors nous on est là. Moi je viens au stade régulièrement, j'y suis, je suis avec les ultras, j'y vais, je me fais chier, je sais que je vais y aller, mais bon, je vais retrouver des copains et puis on va regarder un match et puis on se dit pourquoi pas. Et en fait non, et en fait on a un jeu aujourd'hui qui est certainement l'un des plus mauvais de Ligue 1. On produit rien.
C'est vrai.
On a un duo d'entraîneurs, malheureusement on a Ricardo qui peut pas se lever, on a Bédoué que tout le monde adore, qu'on adore, mais qui est préparateur physique à la base, donc qui n'a rien à faire là, malheureusement le pauvre. On a pas de talent, Il y a rien, il se passe rien. Donc à un moment donné, effectivement, on se dit bon ben voilà, il faut sauver les meubles, il faut se maintenir. Le maintien, moi je suis pas inquiet, on l'aura. Mais il va falloir vraiment qu'au mercato estival, qu'il se passe quelque chose. Tout simplement, il va falloir vraiment que là les Américains, ben ça va être leur vrai premier mercato. Il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions.
Parce que les Américains s'en foutent complètement, ils sont pas venus pour faire briller Bordeaux, mais bon.
Ouais, mais ils sont obligés s'ils veulent faire.
Pour moi, c'est un des dossiers de reprise les plus flous et les plus dangereux.
Oui, mais Daniel, ils sont obligés de faire quelque chose s'ils veulent, même ne serait-ce que pour faire de l'argent.
Je sais.
Parce que là, ils vont pas en faire. Moi, je partage l'avis de Jérémy. Le maintien, il va arriver. Et voilà, moi, je suis pas inquiet. Ils vont se maintenir. Et voilà, et personne n'en parlera non plus. Par contre, cet été, effectivement, il va se passer plein de choses. Moi, j'en suis persuadé.
Oui, mais pour faire de l'oseille dans le foot business, faut avoir des résultats. Enfin, l'un lié à l'autre.
C'est pour ça qu'ils vont. Faut avoir des gens qui les trouvent, les fameux joueurs que tu dois revendre.
Je sais bien, c'est pour ça que je vous dis cet été ils vont faire bouger les choses.
Camano et je sais pas les 2-3 qui ont de la valeur là.
Sachant qu'il y en a un qui est prêté déjà, donc.
Oui, ouais. Plus.
Des joueurs qui ont de la valeur aujourd'hui à Bordeaux, il y en a pas. Aujourd'hui, il y a pas de joueurs aujourd'hui à part Camano qui voilà.
Koundé, j'en avoir un peu.
Ouais, mais Koundé, il faut
de toute façon avoir de la valeur. En même temps, si c'est un que t'as acheté un et que tu en revends 3, c'est déjà bien.
Non, mais il va falloir que nous on s'appuie. Il va falloir qu'on s'appuie sur des joueurs aujourd'hui comme Koundé, comme Pablo, comme Costil.
Il y a Bernard. J'ai peur que ça reste pas moi, Jérémy.
C'est aujourd'hui, il va falloir vraiment tout restructurer. C'est pas que l'équipe, et aujourd'hui, ça va être une restructuration globale qu'il faut. Il va falloir commencer par la base, c'est-à-dire avoir un directeur sportif. Il va falloir vraiment restructurer ce club, parce qu'aujourd'hui, un club comme les Girondins, ça doit pas végéter à la 13e place. C'est pas possible. Ah non, à un moment donné, on doit venir jouer, même si.
Sinon, c'est qui ton président déjà? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le président du club?
Le président du club, le président, c'est. Le long épée.
Ah, bravo.
C'est qu'il l'a.
On hésite toujours un peu.
Une hésitation significative quand même. Hein. On l'a beaucoup entendu, long épée. On sait qui c'est, on sait quelles sont ses idées, son projet, c'est un mec qui est présent.
C'est parce que je te dis, moi je reste persuadé que les investisseurs pour l'instant ont dit il ne se passe rien. Long épée, et cet été à la fin de saison,
long épée, déjà il est arrivé déjà à l'intérieur au club, les mecs déjà ce qui se dit sur lui c'est pas génialissime. On peut pas dire qu'il ait été bien accueilli par ceux qui sont au club depuis longtemps, qui sont au Hayant. On peut pas dire qu'il fasse l'unanimité. Le mec, il vient de débarquer. Et déjà, il se fait un peu déglingue.
Ouais, après, tu sais comment c'est quand quelqu'un débarque, tu...
Bien sûr! Hein? Et quand tu débarques dans un club où des mecs sont là depuis très longtemps, au Hayant, travail, machin, fais en sorte d'être un patron, qui immédiatement, crée les contacts et est plutôt bien vu, parce que si à peine débarqué au bout d'une semaine, déjà, on commence à te tirer dessus, c'est pas bon signe quand même, hein.
Merci à Jérémy de nous avoir appelé au 32-16. Il nous reste 4 minutes. On va se faire une dernière question de l'after. Elle concerne l'OL qui s'est incliné hier 2-0 à Monaco. Bruno Genesio a tenté de trouver une explication à cette défaite après le match. Pourquoi, Bruno, Lyon a laissé trop d'influx face au Barça? C'est ça l'explication ou pas?
Non, enfin, après, je sais pas si c'est ça. J'essaie de trouver des explications, non pas des excuses, mais des explications à notre entame très très compliquée. Et je me dis que peut-être on a laissé beaucoup d'influx contre Barcelone. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que ma compo d'équipe de départ n'était pas la bonne. Peut-être qu'on se croit trop beau. Il y a beaucoup de peut-être après une telle défaite et une telle première mi-temps.
Début de piste.
Tu vois, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont ouvertes là par Bruno Genesio.
Moi, je pense qu'il y a un petit syndrome Boulard à Lyon là, avec certains mecs. Tanguy Ndombele est pas très loin. Bon, Memphis, on le sait depuis longtemps et tout. Mais prise de Boulard. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je vais peut-être être vendu cher. À mon avis, il y a 2-3 vis, il y a 2-3 boulons à resserrer là.
Si c'est pas Boulard, en tout cas, c'est que ça prend un peu la tête et puis.
Mais
et
tu sais, effectivement,
c'est moins performant parce que ça réfléchit à autre chose, quoi.
Le tweet de Jean-Michel Aulas, il est lié à ça.
Le tweet d'hier là.
Ah, c'est pas facile
en
à
plus,
gérer.
C'est Tanguy Ndombele qui était visé principalement, plus que Memphis.
Ah bon?
Ouais, si sur la prise de Boulard et tout, et sur le fait ils se voient trop, les joueurs qui se voient trop beaux, qui pensent à leur transfert de fin d'année et tout ça, c'est lui qui était visé.
Ouais, il faut que ces joueurs-là apprennent à le gérer mieux, parce qu'effectivement après ça peut aller très vite aussi.
Comment t'expliques toi la défaite d'hier? Il donne plusieurs peut-être. C'est mais quoi pourquoi pas... Daniel dit lui il pense que c'est justement le côté manque d'humilité.
Le scénario répété match après match de une mi-temps sur deux ou de un match oui un match non de c'est toujours pareil de la façon dont on joue.
Il ne joue pas le match tout simplement. Donc ça peut être que dans la tête pour moi. Ça peut être que mental ce qui s'est passé contre Monaco.
C'est pas que dans la tête. Il y a aussi quand tu
démarres jamais ton match.
Moi je ne sais toujours pas comment joue cette équipe. Ce qu'elle peut faire sur le terrain en fonction de quel match.
Je suis d'accord avec toi.
Pour moi ça reste également un problème.
Sauf que c'est un peu ce que tu me reproches un peu des fois, Daniel. Sauf que même si tu n'as pas effectivement le côté tactique et le côté technique, ces compétences-là, tu dois avoir au moins ce que moi je défends un petit peu, c'est-à-dire au moins mettre ce qu'il faut sur le terrain pour
le minimum,
pour te bagarrer un petit peu. Le minimum. Mais là il était même pas, tu vois. Donc moi pour moi c'est la première des choses quoi. Après le reste effectivement on peut en parler.
Oui mais sauf qu'après. Après, quand tu joues contre Monaco, et ce Monaco-là, qui est complètement revigoré et qui est une équipe maintenant de très bon niveau avec des joueurs vraiment très forts, si tu es uniquement même que dans l'état d'esprit,
non, ça suffit pas.
Je suis pas sûr que ça suffise.
Mais là, c'était même pas le cas.
À un moment, il fallait qu'il y ait autre chose. Et là, il n'y a rien eu du tout des deux éléments. C'est un problème.
Tiens, on a le temps d'ailleurs, on va le faire. Petite info également, vous savez qu'Abou Diaby était l'invité de Footissime de Florent Moussier et de Saber Desfarges ce soir sur RMC Sport 1. Et il a fait une annonce à Abou Diaby ce soir.
J'ai accepté l'invitation de Footissime ce soir parce que j'ai quelque chose d'important à annoncer. En effet, je mets un terme à ma carrière professionnelle.
Voilà, Abou Diaby qui donc arrête officiellement sa carrière à 32 ans.
C'est malheureux, mais enfin sa carrière, elle est arrêtée depuis très longtemps.
Ouais, enfin là il fait l'annonce officielle quoi.
Quel joueur ça aurait, putain, c'est fou parce que...
Il a pas été très longtemps et c'était il y a très longtemps malheureusement pour lui.
Ouais, non mais les qualités intrinsèques qu'il avait quoi.
Ça pouvait être un crack.
Ah ouais, c'est frustrant. Ça doit être lui d'ailleurs le premier frustré d'ailleurs.
Des années qu'il joue plus maintenant.
Ah ouais.
Bah après il s'y est préparé mentalement à cette annonce officielle. Il a vraiment tout tenté
Là oui. Enfin ça pouvait, enfin de toute manière ça pouvait terminer que comme ça effectivement comme Daniel l'a dit là.
C'est comme si Gourcuff depuis des années qu'il arrête quoi, tu vois, c'est pareil.
Parce qu'il était moins blessé qu'Abou Diaby.
Gourcuff, ça fait très longtemps qu'il joue plus au foot hein Gourcuff.
Voilà, c'est donc officiel pour Abou Diaby. Nous on revient dans quelques instants avec les drôles de dames dans l'after avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo également, Fred Hermel, Simon Rovera, Julien Laurence et David Lortolari. Lortolari on dit. Oh,
ouais. Fou, quoi, lui
tout de suite. Lortolari.
RMC Football Show, l'after foot.